Fréquence Mistral.
Aujourd'hui, dans les studios de Fréquence Mistral, on a le plaisir de recevoir le jeune humoriste Julien Vigne. Julien Vigne, c'est un humoriste qui est en pleine lancée, qui a fait son spectacle et qui a rempli plusieurs fois complet sur Marseille. Il est né à Marseille, il vient de Marseille, c'est un artiste 100% marseillais et il veut mettre Marseille sur la carte. Aujourd'hui, il est co-directeur du Garage Comedy Club, un comedy club qui a son petit succès dans la ville depuis bientôt plus de 2 ans. Et il a son spectacle qui va jouer le 13 août. Bienvenue à toi dans nos studios, Julien Vigne.
Eh bien merci, c'est avec plaisir que je suis là ce soir, ce matin plutôt, excusez-moi.
Belle énergie, ça fait plaisir de te recevoir. Mais Julien, déjà pour commencer, est-ce que tu peux toi te présenter, parce que je t'ai présenté rapidement.
Alors, je me présente, je m'appelle Julien Vigne, V-I-N-H, pour les curieux. Non, après je suis stand-upper depuis 2 ans et demi, presque 3 ans. Avant, j'étais ingénieur de l'ESTP Paris. Voilà, je suis marseillais. J'ai fait mes études, tout mon cursus scolaire dans le 6e. Et après, je suis monté à Paris pour mon école d'ingénieur. Et après, j'ai décidé de tout claquer au bout d'un an et demi de travail dans les cabinets de conseil parisiens pour dire, vas-y, c'est bon, je rentre à la casasse et je vais faire de ma passion mon métier. Ça sonne bien.
Ouais, franchement, c'était inspirant, justement. t'es dans le thème. Moi, je voulais savoir comment tu avais commencé le stand-up, comment tu t'étais lancé là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé exactement.
Eh ben, moi, en fait, c'est ce que je raconte dans mon spectacle. Mon premier spectacle, c'est ça, c'est toute ma vie jusqu'à ce choix fatidique de commencer le stand-up. Et je raconte qu'en fait, c'était pas vraiment un choix compliqué à faire. C'était plutôt le destin, plutôt tout qui se rejoint dans ma vie, parce que moi j'ai commencé au club d'échecs quand j'étais petit à 5 ans, j'ai rencontré des amis là-bas et on a fait nos compétitions et tout. Et après quand j'étais ingénieur, j'ai repris contact avec mes amis d'enfance des échecs. Et il s'avère que Quentin Friberger, le fondateur du garage, a fondé un comedy club et moi j'étais fan de stand-up, il m'a dit viens faire des tests, viens essayer machin. J'ai essayé, je suis tombé amoureux et je suis resté là, voilà, par amitié, par envie de revenir à Marseille, par envie de kiffer ma life, de prendre du plaisir tous les jours. Et au final, je me suis dit, ça peut devenir un métier, quoi.
Et justement, cette passion des échecs que tu partages avec Quentin Friberger, qui a fondé le Garage Comedy, qu'est-ce que ça t'apporte dans le stand-up ? Est-ce que tu vois des parallèles entre les deux ?
Ah, bien sûr. Le travail, déjà, quand on a fait des échecs petits, même quand on en fait encore, on sait que il y a beaucoup beaucoup de travail, qu'il y a pas de secret, que si on veut améliorer notre stratégie, notre jeu, il faut bosser, il faut réviser. Moi je suis très matheux, donc en gros je suis très dans le raisonnement, dans la méthode. Et du coup moi je prends le stand-up comme vraiment une matière scolaire, quoi. C'est-à-dire que j'écris beaucoup, je travaille et je suis avec mon cahier. Tu vois, je suis très scolaire, moi. J'ai très exercice, cahier, écriture, après test. Et c'est ça, c'est plutôt cette manière de voir le stand-up comme quelque chose de scolaire, finalement. Comme quelque chose qui a pas vraiment de secret. Bien sûr, il y a le naturel, c'est quelque chose qu'on construit toute sa vie. Après, le stand-up, on arrive sur scène, on est ce qu'on est depuis toute sa vie, donc il y a le naturel, le fun, moi je suis un peu foufou, etc. Mais quand même, je vois quand même le stand-up aussi, manière scolaire, comme dit beaucoup, ouais, mais comment tu fais pour remonter sur scène et tout, je leur dis, en fait, c'est exactement comme un autre métier, tu travailles, tu as de l'habitude, il n'y a pas de... C'est pas fou, quoi, c'est pas un métier inatteignable, en fait.
Oui, c'est vrai, mais parce que tu es dedans, souvent de l'extérieur, on a un petit peu cette vision un peu romancée où... Mais c'est vrai que dès que t'es dedans, après, c'est autre chose, ça devient le métier, quoi.
C'est ça.
Donc, c'est une approche mathématique, on va dire, de la chose.
Ouais, scolaire. Moi, je dirais scolaire, ouais. Alors, j'ai beaucoup appris à travailler. Moi, que ce soit en prépa ou aux échecs, hein. Ouais, j'aime bien, moi, tout ce qui est travail scolaire, papier, stylo, j'aime bien ça.
Mais justement, donc, ce spectacle que t'as rempli et que t'as fait complet à chaque fois, si je dis pas de bêtises.
Pour l'instant. Merci.
On va croiser les doigts pour que ça continue. Et le nom de ce spectacle, c'est Couronne. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Couronne ?
C'est ça. Couronne, y a deux choses. Premièrement, c'est une citation d'un livre qui s'appelle Power. les 52 lois du pouvoir, je sais pas si tu connais.
Non, pas du tout.
Donc c'est des lois du pouvoir et en gros il y a plein de lois, tu vois, c'est numéroté, il est énorme le livre, c'est pour les un peu pour les dictateurs quoi. Mais
D'accord.
moi je suis passionné par ça, par le pouvoir, la servitude, la soumission, tout ça. Et ils te disent comment soumettre un peuple quoi en gros. Et après ils te disent comment être un bon roi et tout. Et il y avait un passage sur être royal, sur comment refuser l'échec, enfin refuser d'avoir une vie qui est en dessous de celle que tu devrais avoir. C'est ça, c'est être royal, c'est refuser ça, refuser la médiocrité, on va dire médiocrité dans le sens moyen, quoi. Il disait ça, il disait, il n'y a qu'une manière qu'une stratégie, et on l'appellera la stratégie de la couronne. Et ça, c'était ma vision un peu quand j'avais un métier de cadre normal, quoi, on va dire. Et je me disais, non, je veux pas cette vie-là, je veux pas la vie de tout le monde et tout, et il n'y a qu'une stratégie, c'est d'envoyer tout en l'air, et ça s'appelle la stratégie de la couronne, aller viser plus haut. Et rêver comme un enfant. Il y avait ça, et il y avait aussi le lien avec les échecs, tu vois, la couronne, c'est le roi, la reine, et on veut tous être le roi, la reine, on veut tous... Quand on est un pion au début, aller à la dernière case, aller chercher la dame, aller se transformer en la meilleure pièce possible. Et moi, c'est ça tout le spectacle. Je dis qu'au début, je suis né un pion, et puis petit à petit, j'essaie d'avancer de case en case pour aller jusqu'à la dernière. Et aux échecs, quand tu arrives à la dernière case, tu peux te transformer en n'importe quelle pièce. Donc, tu peux te transformer à la meilleure pièce possible. Et cette recherche de la dame, cette recherche de la couronne, tout au long de ma vie, a fait que je suis arrivé jusqu'à ingénieur, et après, voilà. Après, j'ai fait ce choix-là.
Et tu te vois où aujourd'hui sur l'échiquier, là, t'es à combien de cases de la dernière?
Ben, je sais pas si j'ai envie de spoiler, mais en gros, moi, dans mon spectacle, ce que je dis, si je peux, c'est bon, je spoil, c'est pas grave, mais ce que je dis, c'est que j'ai toujours voulu chercher la couronne et la dame et tout, et puis au final, quand j'arrive à la dernière case, et que je pense que je vais aller enfin avoir ce rôle un peu de roi et de reine, eh ben, je me rends compte qu'au final, j'en veux pas et que je préfère prendre le fou. Et au final, je suis le fou, là, aujourd'hui.
Le fou du roi, du coup.
Voilà,
Et
le
comment...
foufou.
Alors, tu te dis, tu as une approche mathématique ou en tout cas très scolaire. On peut te voir souvent écrire sur la corniche pour les petits curieux qui voudraient te voir
Exactement, au
avec ton petit
7-7.
cahier. Comment tu prépares ce spectacle? Est-ce que tu as des gens autour? Est-ce que tu as une morning routine pour préparer un spectacle? Comment on fait?
Alors moi, j'ai, ben, comme je t'ai dit, une manière un peu mathématique, c'est-à-dire j'ai un plan, vraiment un plan comme si tu étais dans un cabinet de conseil où tu fais un plan, un tableau blanc, quoi, avec plein de cases, plein de titres, de parties, etc. Et j'ai un fil rouge. Mon fil rouge, il est là, c'est de la recherche de la couronne, et au final, à la fin, je prends le fou. Mais tout le long du spectacle, on avance avec moi sur ma vie, sur comment j'ai fait pour mettre les choses en place pour rêver de la couronne, et qu'est-ce que ça représente pour moi, la couronne, parce qu'il y en a, c'est peut-être pas le diplôme, mais moi, c'était ça. Et après, petit à petit, je descends, sujet par sujet, je descends et je parle plus en profondeur de certains sujets. Par exemple, le premier sujet, c'est l'enfance. Après, c'est plus, y a les études, machin et tout. Et du coup, dans l'enfance, ben, je creuse, je creuse, je creuse, et je vais chercher des blagues qui parlent de ma vie, de mes parents, de mon éducation, tout ça. Et je descends, je descends, je descends. Et après, toujours en rapport avec la couronne, je remonte pour reprendre le fil rouge en me disant, mais ça, c'est quoi par rapport à ma recherche de la couronne? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça a fait? Bah, mes parents, par exemple, pour eux, ça a toujours été le diplôme. Mais pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas eu de diplôme. Pourquoi? Parce que eux, mon père est vietnamien. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une enfance vietnamienne? Et en fait, je descends, je descends, je descends, je descends. Et après, je raccroche au fil rouge. Et voilà. Et après, bon, moi, le plus important, c'est le fil rouge, hein. Après, les sketchs, bah, j'écris pas mal, comme je t'ai dit, au Sunset. Je suis souvent avec mes amis, Fabien, tout ça. Je leur raconte, on parle, on discute. Je leur montre mes blagues. Il me dit ce qu'il préfère, ce qu'il amènerait, et on teste. Après, on va sur scène, on teste. Est-ce qu'il a pensé à un nouveau truc? Moi, je suis d'accord. Allez, j'y vais, j'essaye. Et les blagues, c'est ça. On les amène petit à petit avec mes potes, avec Fabien. Petit à petit, on les modifie. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais ce qui est important pour moi, c'est le fil rouge, vraiment ce que j'ai envie de défendre. Parce que le spectacle, c'est vraiment toi qui parles pendant 1 heure. Donc, si t'as rien à défendre, c'est difficile. Moi, vraiment, je suis concentré sur mon plan, sur ma structure. Et après, les blagues, ben, comme je te dis, dès que j'ai envie de changer un truc, je le dis à Fabien. Fabien me dit, ça, c'est bien, c'est pas bien. On change, on essaye, on voit.
Je crois savoir, mais je te pose quand même ma question. Mais est-ce que tu as des inspirations? Tu as quand même des humoristes, je pense, qui t'inspirent, ou en tout cas.
Ouais, clairement. Bah, moi, j'ai toujours été inspiré par Coluche. Toujours, toute ma vie, ça a été Coluche, 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 depuis que je suis petit. Vraiment, c'est un exemple, en fait. C'est un exemple de vie. Je connais toute sa vie, je connais tous ses sketchs. Vraiment, je les écoute des centaines, des milliers de fois. Et après, maintenant, c'est plus pareil, en fait. Mais c'est difficile de s'inspirer des gens d'aujourd'hui parce qu'après, on va copier sans faire exprès. Mais j'aime bien écouter, bien sûr, j'aime bien le stand-up français aujourd'hui, même les j'aime bien m'inspirer de leur attitude. J'aime bien leur Je m'inspirais de leur connexion avec le public, c'est plus ça. Tu vois, les Samuel Bambi, je ne sais pas si tu connais. C'est des humoristes, c'est pas des stars comme Coluche ou comme Gad Elmaleh, mais j'aime bien comment ils communiquent avec son public. J'aime bien l'ambiance qu'il a à son spectacle. Moi, ça, je m'en inspire. J'aimerais bien avoir ça dans mon spectacle, une ambiance familiale avec les gens. Pouvoir
Oui.
parler comme ça. Oh, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'aime bien ça. J'aime bien avoir une bonne ambiance.
Créer la connexion. Et justement, comment tu... Parce que en ce moment, c'est la question qui m'obsède moi, mais comment tu crées cet état mental? Parce que je sais que pour performer, il faut quand même avoir une préparation mentale aussi. Toi, avant de monter sur scène ou avant un spectacle ou même une scène normale, classique, qu'est-ce que tu fais justement
La
pour
sieste.
la sieste?
Ah, vraiment, la sieste, c'est hyper important.
Ouais.
Moi, je monte pas sur scène sans sieste, déjà. Et ouais, parce que c'est important de couper les deux journées. Tu vois, nous, on a des journées quand même. On a une journée normale, quoi. On a des choses à faire, machin. Après, à 18h, tu fais une sieste, 19h, hop, avant d'une demi-heure. Comme ça, à 21h, tu as une nouvelle journée qui commence. Et une journée de mec de scène. Parce que la journée, tu n'es pas un mec de scène. Mais le soir, tu es un mec de scène. Donc le soir, tu dois être à fond. Tu dois être. Maximum de. Tu dois être au top. Tu dois être la version la plus drôle de toi-même dans la journée. Le soir, c'est ta manière. Ta façon la plus fun que tu as en toi. Après, ça reste quand même un métier, quoi. Même si des fois, tu n'as pas trop envie juste avant. Mais après, tu montes sur scène et tu ressens tes habitudes, tu ressens le truc.
L'énergie,
Puis après, il y a comment les premières phrases, les premiers mots, les premiers regards. Tout de suite se mettre dans une ambiance, dans un personnage que t'aimes. Moi, je sais que on a tous plusieurs personnages en nous. Et sur scène, il faut montrer le personnage le plus fun. Et moi, mon personnage le plus fun, je le connais, tu vois, à force. On se connaît. Je sais que moi, je suis un peu foufou, un peu. J'aime bien dire des mots qui servent à rien et tout. Eh ben, j'aime bien me mettre ça, les premiers mots, les premières phrases. J'arrive sur scène, je fais un peu ce que je sais faire, quoi. Quitte à pas trop parler direct. Quitte à faire, oh les gars, qu'est-ce qu'il y a, l'ambiance, ça va quoi? Je préfère un peu pour me mettre dans l'ambiance, quoi.
C'est vrai que sur la sieste, en tout cas, moi, ça me rappelle Dolino. L'année dernière, je l'avais vu. Dolino, et c'est un humoriste québécois, très drôle, qui avant un festival, ça avait fait une sieste de 1 heure. Il était allongé juste à côté de la scène, en extérieur, en train de dormir. Et je me disais, mais comment il fait pour dormir comme ça avant une scène? Et c'est vrai qu'il avait fait une super performance. Donc la
Ah ouais,
sieste.
moi vraiment, je sieste tout le temps.
Ouais, bah c'est
Même
vrai
des
que.
10 minutes, hein. Même, je sais faire, ça dépend le temps que j'ai, mais si j'ai que 10 minutes, je fais que 10 minutes. Je sais faire toutes les siestes.
Mais il
10, 20,
n'y a que
30.
les Marseillais qui arrivent à maîtriser aussi bien l'art de la sieste. Donc
Ah,
ça,
c'est une
c'est.
habitude, hein, comme
Ah,
tout. Moi, ça fait 10 ans que je fais des siestes.
ouais.
Ah, je te jure.
C'est un
Depuis.
entraînement.
Ouais, c'est vraiment beaucoup d'entraînement. Mais quand j'étais en prépa, j'étais obligé.
Ah oui,
Obligé, obligé.
effectivement. Ah ouais.
Et ouais.
Et justement, pour ces éditions-là qui sont passées, comme j'ai dit, elles ont toutes fait complet. On touche du bois pour que ça continue. Mais
Ouais.
est-ce que ça s'est bien passé? Il y a eu des dingueries? Comment s'est passé chaque spectacle? Il y a eu des petites anecdotes que tu voudrais raconter aujourd'hui?
Ah ben et les spectacles au garage, franchement, c'était trop bien, c'était magique. L'ambiance, tu connais, l'ambiance du garage, elle est magnifique.
Ouais.
Quand c'est plein, c'est un volcan. Ils sont immenses. Il y a une communion, c'est la folie. Le garage, c'est vraiment le meilleur moment du mois, c'est quand je fais mon spectacle au garage. Après, moi, j'ai plutôt des anecdotes quand j'ai fait mon spectacle ailleurs. J'ai fait mon spectacle dans d'autres villes. J'ai fait à Montpellier, à Lyon, à Nice. Ça s'est bien passé, mais par contre, moi, j'ai fait une fois, j'ai fait un spectacle à Lyon et il n'y avait personne.
Ouais,
Il y
c'est
avait,
classique.
tu vois, moi, la veille, on m'a dit, c'était une petite salle, parce que quand je vais ailleurs, ça dépend, à Montpellier, j'ai fait une grande salle, mais à Lyon, je fais une petite salle, une petite cave, tu vois, juste pour travailler. Et il y avait une place, donc j'ai déjà fait complet là-bas, je l'ai fait 3 fois là-bas. Et une fois, j'arrive la veille, ils me disent, il y a 6 résages, je dis, bon, ça va, le lendemain, ça va remplir, tu vois. Donc j'y vais. Et en fait, le jour même, il n'y en a que 3 qui viennent sur les 6. Et ça va pas augmenter du jour au lendemain.
Ah, et donc là
Normalement, ça prend
c'est
le jour
ouais.
même, tu vois, 20, je me suis dit, c'est facile, je vais les faire. Et là, il y en a 3 sur 6. Trois, genre trois meufs. Trois meufs, et j'ai joué devant trois pendant 1 heure. Et c'était la folie. Enfin, c'était bien, tu vois. Moi, je voulais pas ne pas jouer. J'avais trop envie de jouer. Et ça s'est trop bien passé. Mais de jouer devant trois, c'est une anecdote, ouais. C'est un peu fou.
Ah, c'est un souvenir qu'il faut
Ah
garder parce
ouais,
que.
t'imagines?
Oui, c'est
Trois.
ça. Mais je pense que les Parisiens, qui entendent cette interview,
Ouais.
ils sauront se connecter parce qu'apparemment, c'est quelque chose qu'ils font assez régulièrement aussi de jouer devant
Ah
trois, des
ben,
fois même un.
tu es obligé.
Ah oui, mais tant que, de toute manière, tant qu'on n'est pas au sommet, c'est C'est la norme. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Est-ce que toi, tu veux nous raconter aussi sur la préparation, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments drôles aussi sur la préparation? Parce que j'imagine que ça a été une aventure aussi. Comme tu dis, tu es accompagné, il y a Fabien qui t'accompagne, mais il y a d'autres personnes aussi de l'équipe. Comment tout ça s'est préparé? Est-ce que vous êtes resté vraiment que à écrire ou est-ce que vous allez aussi chercher des situations, vous allez chercher des moments pour vous inspirer?
Ben nous, dans la préparation avec Fab, c'est un peu bizarre parce que moi, je suis très, très, comme je t'ai dit, je suis très méthodique. Mon spectacle, je l'ai bien bossé, je l'ai bien réfléchi tout seul. Le fil rouge, je l'ai bien réfléchi. Il y a des trucs que j'ai bien travaillé tout seul et tout. Après, quand avec Fab, on se penche sur les blagues, sur les machins, sur les répètes. Parce que moi, je répète pas, en fait. C'est ça mon gros problème. C'est que Fab, à chaque fois, il me dit répète, répète, répète. Moi, je répète pas, j'arrive pas à répéter. Je suis quelqu'un qui imagine, j'imagine beaucoup. Je suis dans mon lit, je ferme les yeux et j'imagine, je répète dans ma tête. Je ressens les trucs. Mais je répète pas. Donc, ça veut dire que mon spectacle, d'un spectacle à l'autre, c'est jamais le même parce que j'oublie des parties. Donc, à chaque fois, tu vas venir, tu me dis, ah, tu as pas fait ça. Ben ouais, j'ai oublié. Et en fait, j'oublie plein de trucs parce que je préfère laisser vraiment le naturel, faire comme je le sens, le jour J, le moment T. Et ça fait que ma préparation, elle est un peu spéciale. J'ai mon plan, j'ai mon truc, je sais ce que j'ai envie de défendre, je sais ce que j'ai envie de dire, mais par contre, il y a des parties, je vais les oublier parce que j'ai pas répété. Mais c'est un peu le positif du négatif, tu vois. Tant mieux parce que c'est naturel, tant pis parce qu'il y a des trucs que j'oublie. Et quand on répète avec Fab, parce que les fois où on répète, on se dit vas-y, on fait une après-midi, on répète. La veille, par exemple, la veille du spectacle, eh ben, au final, on répète pas, juste on écrit de nouvelles choses. À chaque fois, c'est ça. On écrit des nouvelles choses, on fait des nouvelles choses, et du coup, le lendemain, on doit tester ça en plus. En fait, on n'arrive jamais à rester genre normal, à répéter,
Sur
jamais.
quelque chose de fixé, mais je pense que c'est aussi le problème des
Jamais.
Marseillais parce qu'il y a un autre humoriste marseillais ben, maintenant connu que j'apprécie beaucoup, c'est Laurent Febvre.
Ouais.
Et je sais que sur ses spectacles, j'ai eu la chance ou le malheur de faire sa régie. Et c'est vrai que d'un spectacle à l'autre,
Et
Laurent, il peut modifier complètement son spectacle, changer complètement son ordre et tout. Je pense qu'il y a vraiment ce truc spontanéité que peut-être les Marseillais ont et qu'il n'y a pas ailleurs. C'est vraiment ce côté, on vit l'instant peut-être un peu plus que les autres, quoi.
ouais, en tout cas, Laurent et moi, on se rapproche pas mal sur ça, tu vois. On pas trop. On est méthodique, mais après, sur scène, on se laisse faire bordel, quoi. Et nous, même dans notre préparation, même quand on répète avec Fab, vraiment, on répète pas parce qu'on rajoute, on rajoute, on rajoute. On rajoute trop de choses, on veut trop tester d'autres choses. Ça part en couille, quoi.
Mais
Mais.
justement, j'en profite, mais sur les Marseillais, toi qui connais maintenant bien le game de Marseille, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une... Qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être Marseillais? Qu'est-ce que ça t'apporte la ville de Marseille par rapport à l'humour? Parce qu'il y a quand même une spécificité marseillaise sur l'humour, sur les humoristes marseillais.
Ouais, ben. Moi, je dirais que. Marseille. Être Marseillais, déjà, c'est avoir de l'humour, tu vois. C'est pas forcément. Casser le ventre à tes potes, parce que dans tous les cas, dans des groupes, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont moins drôles, hein, ça c'est dans toute la France. Mais c'est toujours à avoir le sens de l'humour, c'est-à-dire quand tu vas dans un magasin, ou quand tu vas à la boulangerie, ou quand tu parles à des gens dans la voiture, ben, il y aura toujours une petite touche pour l'humour, tu vois. Ben, je sais pas, je grille le feu rouge, bon, il y en a un qui va marronner peut-être un peu, mais je vais essayer de. Tu vois, il y aura toujours une place à l'humour dans n'importe quelle situation, même avec des flics, tu vois. Il y aura toujours une petite place à l'humour, il y aura toujours un petit pic, un petit truc. Et ça, je pense que c'est propre à Marseille. Tu vois, on va pas dire on est tous drôles, tu vois, on n'est pas tous drôles, mais on a toujours, il y a toujours une place qui est réservée dans la discussion à l'humour. Je vais à la boulangerie, elle va se tromper, je vais faire une blague ou je vais dire, je vais mentir. Tu vois, on a ce truc du mytho. On a toujours ce truc du mytho. On va emboucaner quand on dit emboucaner, c'est vraiment un mot. Il y a pas trop dans la langue française emboucaner. Il y a embrouiller, mais embrouiller c'est pas le même truc. Emboucaner, nous on aime trop emboucaner, c'est-à-dire que je vais te dire un truc et c'est pas vrai, juste pour rigoler. Tu vas me dire, tu es venu comment? Je vais te dire en train. Et tant je suis venu en voiture, mais en fait, ça juste pour mentir, juste pour la
Ouais,
touche
pour
d'humour.
le
Et après,
plaisir.
dire, non, je rigole. Et en fait, en Marseille, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, non, je rigole et tout. Et moi, dans mon humour, je l'ai beaucoup ça. Quand je parle aux gens, et après, je le retrouve dans mes sketchs, parce que dans tes sketchs, tu racontes ta vie. Donc, forcément, les interactions avec les gens et tout, tu les retranscris sur scène. Et moi, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup de l'emboucanage. Soit même quand je fais des interactions avec des gens. Si elle va me dire je suis docteur, je vais dire ouais, moi aussi, alors que je suis pas docteur, tu vois.
Ouais, donc il y a ce
C'est un peu
truc-là.
ce truc de moquerie. Toujours
Ouais.
on se moque tout le temps, on est tout le temps dans le boucanage. Moi, c'est ça. beaucoup dans ça, dans après, il y a beaucoup l'exagération aussi. L'exagération, ça, c'est très marseillais. Laurent, Laurent, c'est le roi de l'exagération.
Ah oui, je pense que les Français le savent en général.
Ouais, là, l'exagération, c'est fou, ça aussi. Mais ça, peut-être moins moi. Moi, je suis plus dans l'emboucanage que dans l'exagération. Mais l'exagération, ouais, c'est propre aux Marseillais. On va toujours exagérer, tu vois.
Ouais, c'est vrai que moi, je n'ai pas rencontré encore de vrais Marseillais introvertis. J'ai l'impression que le plus introverti des Marseillais, c'est l'extraverti de n'importe quelle autre ville. Parce que les Marseillais, ils ont quand même assez grande gueule en général. Mais
on
j'aime
est
beaucoup.
Plus à l'aise. En fait, c'est ça, c'est à l'aise. On est vraiment. Il n'y a pas de problème. Tu vois, tu rencontres quelqu'un, je suis tout de suite à l'aise. Je peux te tutoyer, je peux t'aider ou je peux t'insulter ou je sais pas, on est à l'aise. On a l'impression qu'il n'y a pas trop de barrières, tu vois.
Mais la violence, elle monte aussi vite que le rire à Marseille.
Ouais, c'est ça. On peut s'insulter rapide, rapide.
Bon, ben en tout cas, on arrive sur la fin de cette interview. Merci à toi,
Avec
Julien,
plaisir.
d'être venu ici dans nos studios. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut te suivre, comment on fait pour venir voir ton spectacle, parce que tu vas jouer prochainement, et voilà.
Pour me suivre, ça va être compliqué, parce que je vais très vite, très très vite en scooter. J'ai un Beverly 350, franchement, attrape-moi si tu peux. Ça, c'est pour tous les flics. Non, je rigole. Non, les flics m'ont arrêté hier. Bref. C'est pour me suivre, c'est simple. Hein. Tu tapes Julien Vine sur Instagram, Julien espace VINH sur Instagram ou surtout sur Facebook.
Copain d'avant pour les
plus. Sur LinkedIn. Non, mais de partout. Et après, venez voir mon spectacle, bien sûr, avec plaisir. Sur le lien de mon Instagram, il y a le lien en bio. Et sinon, tu tapes Julien Vine au spectacle, couronne, et puis c'est bon. Moi, je le fais une fois par mois. Après, le but, c'est de le faire une fois par semaine. Un jour, j'aimerais bien avoir une hebdo à la rentrée. C'est un peu le scoop. Mais je ne l'ai pas encore, mais je fais tout pour.
Ok, c'est un bel objectif.
C'est l'objectif 2025. Là.
Ouais, ça permettrait de le faire évoluer, de le faire monter très vite. Ouais.
C'est ça.
Donc, du coup, ça sera la prochaine date, c'est le 13 août au Garage Comedy Club. On peut, suffit de taper Julien Vigne sur Google et on peut trouver les places. On mettra le lien dans tous les cas sur le podcast en dessous pour aller directement dessus. Je te remercie encore, Julien.
Et
bonne continuation à toi dans l'humour.
Merci.